Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nous avons un invité qui nous a rejoint, Tiffany. Est-ce que tu es bien installé, ça va?
Oui, ça va, là, je suis bien, je suis prêt.
Tu nous disais, c'est ton premier passage sur Twitch, sur l'internet mondial en fait. Après un petit passage sur Le Parisien quand même, mais là sur YouTube c'est...
Ouais, c'est ça, quand même. Mais c'est ça, c'est impressionnant, ouais.
Est-ce que... Vraiment alors, content d'être là. Descends un tout petit peu ton micro, histoire qu'on te voit, sinon tu seras tout caché.
Yes.
Donc tu peux le descendre, voilà, parfait. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de trucs. C'est marrant parce qu'en plus, c'est... On n'avait pas du tout prévu, mais les deux dernières émissions, on a fait des trucs sur les composants de téléphone, le monde des licences, enfin voilà, on ne sait pas pourquoi, en ce moment, il y a un thème téléphonie. Et aujourd'hui, on va parler de tes hobbies, qui sont originaux quand même.
Un peu particuliers.
C'est ça. Tu en avais déjà parlé il y a quelques années, non? Sur des articles ou des trucs comme ça ou pas?
Alors, les dernières années, ça n'a pas été le cas. On va dire que ça a commencé à être médiatisé il y a quelques mois seulement, pendant les grandes vacances.
Ok.
Mais non, en fait, ça fait longtemps que je fais ce projet, mais ça fait que très peu de temps que d'autres gens sont au courant.
Ok. On va rentrer dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas. Et par curiosité, moi, avant qu'on commence, je me demandais, est-ce que tu l'as déjà utilisé genre dans des projets en cours? Tu as tout le temps des projets, tu sais, genre TPE, ouais. TIPE, des trucs comme ça. Est-ce que tu as déjà pu utiliser tout ça, genre pour les cours, ou c'est vraiment uniquement pour le kiff?
Alors c'est quand même en grande majorité pour le kiff, mais on va dire que déjà dans des petits projets Arduino, parfois c'est pratique, parce que c'est quand même tout en un, quoi.
Bah ouais.
Sinon, ça a un intérêt. Puis c'est aussi l'objectif.
Et toi, t'es toujours au lycée ou... Attends, 17 ans, je me rappelle plus. C'est terminale?
Je suis en terminale.
Terminale, c'est ça, ok. Ok, et tu sais ce que tu vas faire après ou pas?
Moi, j'aimerais bien travailler dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle.
Ok.
Au top.
Donc, je suis au bon endroit,
on va dire. Deux domaines, très bien.
J'ai du mal à trouver du travail, je pense. Et tu sais où, déjà ou pas?
Moi, j'aimerais bien faire l'EPITA.
Ok.
Mais au choix encore, j'ai pas encore décidé.
Ça roule. Eh bien, dites coucou dans le chat, tous ceux qui nous écoutent depuis l'EPITA. Il y en a. Moi, j'avais mon coloc qui a fait l'EPITA.
Ah bon?
Ouais. Donc, ouais, mais du coup, même, on avait une coloc pas loin de l'école, etc. Donc, en fait, et j'y suis déjà allé une fois ou deux. Mais ouais, effectivement, il était... Alors, il y a toujours des systèmes hyper complexes dont j'oublie les acronymes. Mais il était genre YAKA ou...
AQ, ouais.
Je connais pas ça, je connais pas.
En fait, moi, mon école, elle était au Crémin-Bicêtre. Et okay. Du coup, partager les locaux avec EPITA. Ouais, donc en fait, on le connaît très bien.
Ok, trop bien. Et ben, on te suivra avec plaisir. Parce que tu as commencé un peu avant l'école. Concrètement, mais c'est marrant parce que, alors, dans une autre mesure, mais tu me fais un tout petit peu penser à moi parce que je me souviens qu'au lycée, j'avais des passe-temps. Et je me sentais un peu solo dans mon truc. Tous mes potes, ils avaient genre des hobbies.
Oui.
Alors, peut-être tu connais d'autres gens qui font ça, mais moi, à l'époque, je me souviens, tous mes potes, ils avaient des hobbies normaux, tu vois, ils jouaient aux jeux vidéo, etc. Et moi, je m'amusais à faire du freelance pour faire du développement web. Donc, c'était pas du hardware, mais c'était un autre registre. Bref, et du coup, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver en première année pour enfin trouver tes copains.
Je suis dans la même situation.
Même situation, ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. À l'âge de 13 ans, notre invité s'est dit « Et si je fabriquais mon propre téléphone ?» Voilà, sans même avoir codé une seule fois dans sa vie et en partant de zéro. Et 4 ans plus tard, le Paxophone existe et c'est devenu un projet communautaire et open source. Et une nouvelle version est déjà en préparation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer un téléphone de A à Z? Par quelles étapes est-ce qu'on doit passer? Comment on crée un OS? On va pouvoir poser toutes ces questions à Gabriel Rocher, notre invité du jour. Je suis très très content de t'avoir. Est-ce que, déjà pour commencer, tu veux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? On en a parlé un petit peu avant, mais ça va être coupé. Donc, qu'est-ce que tu fais là actuellement cette année?
Alors moi, dans la vie, enfin depuis tout petit en tout cas, j'ai toujours été intéressé par la technologie, la science, etc. Donc j'ai toujours été un peu plongé dans ce domaine-là en regardant sur Internet, etc. Et je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai plus tendu vers l'électronique. Donc moi, je trouvais ça très marrant de démonter un peu les objets qu'on trouvait un peu partout et puis de regarder les composants qu'il y avait dedans, les récupérer, les rebrancher dans d'autres situations. Et bon, ça a toujours été un petit peu, entre guillemets, brouillon.
Ouais.
Vraiment très...
Par exemple, tu démontais des trucs électroniques que tu avais.
Voilà, voiture télécommandée, tout, panneau solaire, tout y passe. Et en fait, à un moment, j'ai voulu commencer à faire des projets un petit peu plus marrants. Sauf que... avec le niveau d'électronique que j'avais, des projets plus marrants, ça pouvait pas être fait sans un peu plus de rigueur, et encore mieux, même de programmation. Voilà, pour info, je détestais la programmation au tout début, parce que genre, mon père m'avait acheté une carte Arduino, et juste parce qu'il voulait me lancer un peu dans le truc, et moi je l'avais juste mis dans un placard que je détestais. À cette époque-là, je savais même pas taper sur un clavier, donc j'avais trouvé ça horrible d'écrire des lettres pour faire un programme, je préférais Scratch.
Quand tu dis à cette époque-là, t'avais quel âge ?
Je devais avoir à peu près 10 ans.
Ok.
Non mais c'est il n'y a pas si longtemps en vrai.
Oui.
Et donc à 10 ans, tu faisais un peu du Scratch, donc c'est l'interface visuelle pour faire de la programmation.
Voilà.
Mais tu ne codais pas encore. Et donc tu découvres Arduino, etc. Et à quel moment ensuite commence le projet de créer un téléphone ? Comment ça t'est venu en fait cette idée ?
Alors du coup, à un moment, c'était à peu près vers mes 13 ans, j'ai ressorti ma carte Arduino du placard et je me suis dit, et en fait on pourrait faire des trucs marrants avec ça, parce que c'est vrai que je me sens un peu limité là dans ce que je peux faire. Donc j'ai commencé à faire des chenillères avec des LED et tout, mais alors vraiment les codes les plus basiques que vous pouvez imaginer. Hein, c'était, on parlait même pas de fonctions. Je sais pas si vous avez,
enfin, oui,
pour ceux qui regardent, mais... je ne connaissais pas ça. Pour moi, je ne connaissais seulement le exécuter une instruction et le attendre. Et la boucle principale qui était unique. Et avec donc, ça, on ne construit pas grand-chose. Hein, mais
non, c'est ça. Et donc à ce moment-là, tu as un Arduino. Et comment te vient l'idée ? Parce que moi aussi, j'ai fait des jeux joués avec l'Arduino. Je ne me suis pas dit, si je crée un téléphone, comment ça t'est venu ?
Alors là, je dois avouer que je suis un peu dans une impasse. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi cette idée, parce que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Mais on va dire que vers les 13 ans, je me suis dit... et tiens, et si je faisais un téléphone portable pour voir un peu comment je peux faire et jusqu'où je peux aller ? Bon, je ne savais pas coder. En électronique, j'avais des connaissances un petit peu, on va dire, pas suffisantes, tout simplement.
Comment tu commences ?
Alors, au début, je vais sur Internet et je regarde comment faire un écran, parce que, oui, moi, dans mon idée, faire un téléphone, ça passe d'abord par avoir un écran. Et c'était déjà quelque chose d'un peu trop compliqué. Pour moi, à cet âge-là. Donc, je vais sur Internet, sur AliExpress, je commande mon écran. Et là, je ne sais pas pourquoi, je branche, ça ne marche pas. J'ai bossé des tutoriels, ça ne marche pas. Tout ça parce que... bon, ça a duré un an. Tout ça parce que l'Arduino fonctionnait en 5 volts et l'écran en 3,3 volts. Et moi, j'étais là, j'avais le bon schéma et tout. Je me disais, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Bon, bah, ça m'a énervé. Pendant très longtemps, mais au final, au bout de un an, ça a fonctionné. J'ai eu des premiers graphismes qui sont apparus sur l'écran, avec un taux de rafraîchissement absolument exceptionnel, avec un petit Arduino qu'il fallait 4 secondes pour afficher l'image. Mais en fait, ça marchait. Voilà, j'avais
du 0,25 Hz. Ouais.
Voilà, ça fait du 0,25 Hz. C'est pas exceptionnel,
mais c'est un peu rassurant de savoir.
Voilà, c'était rassurant.
Les premières erreurs déjà sont un peu bêtes. Moi, ça me rassure sur le fait que vous allez voir le résultat évidemment à la fin. Tu nous as amené des prototypes, des trucs qu'on va découvrir ensemble. Mais voilà, on est rassuré de savoir que tu commences, tu es a priori normal, donc tu fais des erreurs.
Voilà, voilà.
Après, qu'est-ce que tu fais ?
Alors après, j'essaie de me pencher un petit peu vers la téléphonie. Alors heureusement que je n'ai pas réinventé la téléphonie à 13 ans, parce que là ce serait vraiment très particulier. Mais en l'occurrence, il y a des entreprises qui fabriquent des petits modules téléphoniques, c'est des petits composants électroniques qui s'occupent directement de gérer la communication réseau. Et en fait, on a juste à discuter avec eux pour leur envoyer des commandes et du coup, par exemple, lancer un appel ou envoyer un message. Bon, ça simplifie vraiment, vraiment l'utilisation. Mais bon, là c'est reparti pour 6 mois. Parce que le module téléphonique fait des pics de consommation à 2 ampères. Ce qu'un Arduino ne peut pas fournir.
D'accord.
Donc c'était bizarre parce qu'à chaque fois que le module se connectait au réseau, tout plantait. sans qu'il y ait une ligne de code qui ait fait du mal en fait.
Ouais.
Et bon bah là c'était reparti pour un petit moment de je ne comprends pas, surtout que évidemment avec mes connaissances je n'avais pas la moindre idée de pourquoi ça aurait pu être ça.
Ouais.
Et finalement, sur des forums, j'ai trouvé le truc. Je me suis dit, ah tiens, si je mettais un gros condensateur dessus, ça a marché. Et j'ai tout fait dans un boîtier, une boîte à chaussures. Et,
Donc, c'est pas encore un téléphone. Est-ce qu'on peut appeler ça un téléphone?
Alors, à ce moment-là, on peut appeler ça un téléphone parce qu'on peut théoriquement téléphoner.
Et ouais. Il y avait la taille d'une boîte à chaussures.
Alors, voilà. Alors, bon, pour faire un petit peu près une idée du premier modèle, ça faisait à peu près cette taille-là. Voilà, avec sa, ah, voilà. Sa d'épaisseur.
Oui, tu parles de la boîte. Ah oui, d'accord. Okay.
Non, non, c'est même pas celui-là. C'est même pas celui-là. C'est encore un ancien.
Encore avant, ok.
Donc, j'ai pas...
on y reviendra plus tard à celui-là.
Voilà. Et bon, bah, celui-là, il était. Enfin, c'est dans mes souvenirs. J'ai travaillé, etc. Mais bon, c'était un petit peu gros pour être un téléphone. Et c'est là où je me suis lancé, en fait, l'objectif de. Bah, de tout simplement miniaturiser le tout. Et c'est là justement où on peut voir la suite des modèles qui ont découlé de ces premiers modèles. Donc
ce qu'on a vu du coup, c'était le plus gros, enfin est-ce que c'est du plus gros au plus petit, c'est par ordre chronologique
de... Alors en gros, il manque deux premières versions. C'est juste ça, il y en a une, c'était vraiment la première fois que j'arrivais à mettre un écran et un module téléphonique, donc c'est vraiment pas joli à voir. Ensuite, il y en avait un autre, mais je l'ai amélioré en la grosse boîte là qu'on voit. Bon, ça, c'est la première version, entre guillemets, propre du téléphone.
Ah, attends, donc la boîte en bas, il n'y a pas d'écran vraiment encore? C'est là, c'est juste un module pour pouvoir appeler, mais il n'y a pas...
Alors,
y a pas
voilà, là, on voit bien sur cette photo, justement, okay. Si on voit justement qu'il y a un écran, c'est d'accord. Un tout petit écran, et il y a un magnifique clavier 4x4.
C'est parfait ça.
Okay, c'est quand même plus petit que ce que je croyais. Non, là, sur la photo d'avant, j'avais l'impression que c'était encore des boîtes à chaussures. Mais non, là, ça commence à être.
On dirait des boîtes à chaussures là, mais ok.
C'est une taille acceptable.
Ouais.
Bah, justement, plus ça avance, plus c'est.
Moi, je peux le mettre quasiment dans ma poche là.
Le tout petit
Le grand.
Le grand, ouais. Non.
Ah, dans le grand, pas. Hein. Vous voulez le voir?
Ah bah
ouais,
oui, quand même.
Ouais, on veut le voir, ouais.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà. Telle une fusée.
Ah. Ouais,
il marche plus du tout, mais il y a l'idée. Voilà.
Trop stylé.
Est-ce que... Waouh, trop cool.
C'est trop stylé.
C'est un gros morceau. Hein.
C'est génial.
Oui, alors effectivement, c'est un beau bazar de
fusée. C'est un bazar, mais...
Mais sur la photo, on voyait l'intérieur, mais du coup, il y a l'écran et puis il y a...
Donc là, si tu nous fais un petit peu le descriptif, donc on reconnaît effectivement un petit écran. C'est quoi tes autres composants, entre guillemets?
Alors, je ne sais pas si on voit très bien, si jamais il y a l'image. Ça peut être pas mal.
On va montrer ça.
Bon, voilà, on voit bien. L'espèce de carte rouge, c'est justement le circuit de l'écran. Ensuite, il est connecté avec les espèces de fils qui sont connectés tous ensemble à la carte qui est à peu près au milieu à gauche. Ça, c'est le processeur, entre guillemets, le microcontrôleur. C'est un Arduino Omega.
D'accord.
Mais version petit.
Ok.
Voilà, c'est aussi bête que ça.
Tu peux le filer comme ça.
Ah ouais, pardon.
En même temps, c'est bien. C'est parfait. Mais je ne savais même pas que ça pourrait suffire en termes de capacité. Je suis bête, mais...
0,25 FPS.
Oui, d'accord.
Faut relativiser quand même.
Mais ça suffit, tu peux effectivement, avec ça, passer des appels.
Bah, en soi, il sert juste à envoyer des commandes, donc il fait rien. Mais après, il y a le module téléphonique, justement, qui s'en occupe et qui fait très bien ce job.
Okay.
Puis il y a aussi un module pour avoir l'heure.
Vas-y, tu peux le monter un petit peu plus haut, comme ça, on le verra dans ton truc.
Il y a un module avec... On voit là le module avec l'heure. Là, ici, on a la carte. Ici, on a la carte principale. Là, on a le fameux petit convertisseur qui permet d'avoir l'écran en 3,3 volts. Parce que ça,
de ne pas tout faire exploser.
Voilà, de ne pas tout faire exploser. Parce que, moi, je n'ai pas dit, mais ça pose problème aux composants électroniques en général. De ne pas communiquer avec la bonne tension. Là, il y a l'alimentation et tout. Bon, bref. Il y a cool. beaucoup de trucs pour pas grand-chose, finalement.
Et ça, juste que pour se faire un ordre d'idée, est-ce que n'importe qui voilà, qui a un tout petit peu de compétences électroniques ou en code peut faire ça?
Alors, c'est tellement simple, entre guillemets, c'est vraiment connecter des Arduino avec un écran, tout ça dans un boîtier. Donc oui, honnêtement, n'importe qui avec un Arduino peut le faire. Surtout que ça n'a même pas besoin de beaucoup de RAM. Et je crois, de mémoire, je ne sais plus combien il y a de RAM dans un Arduino Mega, mais ça se compte en quelques kilooctets.
Ouais, c'est tout petit.
T'estimerais à combien le prix de tous les composants là?
Alors, un Arduino Mega, ça coûte un peu cher, parce que c'est Arduino. Mais au total, je saurais pas dire, j'ai pas les souvenirs, mais un Arduino ça coûte déjà cher, donc c'est probablement plus de 50 euros ce truc.
Mais moins de 100 euros quoi.
Je pense oui quand même.
Moins de 100 euros pour fabriquer.
Je pense pas que j'aurais mis 100 euros là-dedans.
C'est un... C'est un bon projet à faire. Ouais. Moi, ça m'aurait bien tenté, je pense, ouais, à l'époque. Donc, tu es à cette version-là du prototype. Et là, ce qu'on a vu sur les images, c'est que tu passes petit à petit d'une boîte à chaussures à des modèles de plus en plus raffinés, de plus en plus précis. Alors, j'imagine que toi, tu as mis énormément de temps, ce qui a permis de faire tout ça.
Un peu trop. Mais
en gros, à quel moment le projet commence à prendre un peu une autre tournure, quoi ? À quel moment ça passe de ton proto à... Non, mais là, on devient vraiment sérieux.
Ben en fait, à peu près vers ce modèle-là, c'est là où ma famille et mon entourage ont commencé à se dire en fait, ça peut téléphoner, quoi. Ça peut marcher. Et donc là, j'ai commencé à avoir la confiance, entre guillemets, de tout le monde. Je pense que personne ne savait, y compris moi, que je pourrais aller aussi loin. Mais bon, voilà. Du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, je vais vraiment m'y investir, beaucoup plus de temps pour vraiment miniaturiser, etc. Bon, je croyais à ce moment-là que je ne pouvais pas le miniaturiser plus et que j'étais arrivé au max technologique que je pouvais atteindre. Ce qui était le cas, en fait, vu que j'apprenais tout.
Tu es prêt ?
Et donc, en plus de vouloir miniaturiser le téléphone, je me suis dit, tiens, on pourrait aussi ajouter des objectifs au projet, parce que, bon, là, c'est beau, mais j'en fais quoi ? Donc, j'ai décidé de le mettre en open source. Voilà, en toute modestie du circuit, parce que quand même, c'est quand même très, très brouillon. Vous ne voulez pas voir l'OS. D'ailleurs, je crois qu'il n'est plus sur GitHub, tellement qu'il est moche. j'en ai honte, mais bon, bref. Et là, j'ai rajouté quelques objectifs, comme par exemple un téléphone qui doit être un peu plus écologique, en ayant moins de composants électroniques, même si là, c'était pas du tout le cas. Il y avait aussi vouloir faire un téléphone pour les makers, si jamais ils voulaient tous développer un peu leurs trucs. Théoriquement, on peut rajouter plein de trucs sur ça. Ça reste un Arduino, fais ce que tu veux, quoi. Et voilà. Après, l'objectif, c'est ce que j'ai voulu faire, c'était pousser vers un peu un objectif plus communautaire, mais bon, c'est pas avec ça vraiment qu'on attire du monde en général. Donc, ça n'a servi à pas grand chose. J'ai floppé complètement. Mais bon, j'avais mon site web, etc. Donc, moi, j'y continue à y croire et je me suis dit, en plus, ça peut peut-être servir pour mon avenir, etc., de devoir construire ça. Donc, j'ai continué. Et grâce à l'encouragement de certains de mes camarades, dont un ami qui me disait que c'était en général trop volumineux, ce qui est totalement vrai, avec un peu de recul, même si je trouvais ça, c'est trop petit, c'est miniaturisé par rapport au modèle précédent. Et donc là, j'ai commencé à faire des trucs un petit peu plus, entre guillemets, professionnels.
Alors montre-nous. On voit ça depuis tout à l'heure, c'est dans une boîte d'iPhone en plus.
Chut. c'est iPhone qui me fournit en fait. Donc voilà.
Alors, oh, stylé.
Ultra cool. Hein.
Voilà, ça c'est dingue.
Voilà, donc là, ce téléphone est, un peu épais.
Oui, là, voilà.
Mais,
okay,
mais il a la bonne, il a le bon format. Là.
C'est ça, c'est le.
Et vous savez quoi ?
Adéquat.
Et même qu'il fonctionne encore.
C'est vrai ?
Ah,
trop bien.
Je peux allumer.
Il faut le brancher.
Alors, j'ai débranché la batterie parce que sur un truc qui a 2 ans, je dois avouer que j'ai plus trop confiance en mes circuits d'alimentation.
Ok.
Donc il y a plus de batterie, mais.
Okay, donc ça c'est le résultat quand t'avais 15 ans, donc à peu près 2 ans plus tard.
Voilà, à peu près 2 ans de travail. Donc là, j'ai une chance sur deux que ça pète, mais bon. Voilà, on peut voir la fréquence de rafraîchissement.
Oh, elle est trop cool.
Je sais pas si on voit le truc.
Si. Enfin.
Attends. Ah non, ça a planté.
Un écran blanc et un écran.
Ouais, non, mais c'est en fait. Ouais, non, là, c'est l'intérieur, mais en fait.
Ça
ressemble à ça. Voilà.
Ah ouais, trop cool.
C'est la même chose que ça.
Un peu plus compact.
En plus petit.
Ouais.
Donc je vais le redémarrer parce qu'il y avait un petit faux contact.
C'est exactement les mêmes composants que l'autre ?
C'est presque les mêmes composants, il y a juste l'écran qui est plus grand.
D'accord.
Mais c'est ça. Non, je vais quand même essayer de le démarrer pour avoir une petite interface, ce serait quand même pas mal. Mais il a décidé de ne pas vouloir démarrer. C'est dommage. Non, il ne veut pas démarrer.
Il y a le chat qui dit, prochaine étape, il fabrique sa propre photolithographeuse et produit ses propres...
Ah si, c'est bon, regardez.
Oh, ça boot.
Voilà,
oh,
ça boot. Et normalement, je peux même taper le code. 2, 3, 4, c'est ça le code.
Si t'arrives à le montrer un tout petit peu plus haut, je veux pas te faire de...
Voilà, là, on peut taper le numéro de téléphone.
Je sais pas si on voit bien.
Si, bah,
si tu peux. Monte-le un peu.
Hop.
Trop bien, merci. Tu peux l'orienter vers la caméra ici.
Ah ouais, elle est là, la caméra, d'accord.
Voilà, on peut taper le numéro de téléphone.
On reconnaît effectivement l'écran de déverrouillage. Voilà. Et là, moi, j'ai une question qui me vient. J'ai une question qui me vient. Ça ne ressemble pas à iOS, ni à Android. Qu'est-ce que c'est que ce système d'exploitation ?
Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai dû apprendre le code pour arriver jusque-là. Et c'est pas pour rien, c'est parce que sur un microcontrôleur qui a même pas des mégaoctets de RAM, on peut pas lancer Android, on peut pas lancer iOS, on peut pas lancer grand chose. En fait, même Python, ça passe pas. Donc, bah, j'ai dû concevoir, entre guillemets, bien sûr, mon propre système d'exploitation. Parce que c'est pas vraiment un système d'exploitation, parce que un système d'exploitation, c'est celui qui permet de lier vraiment le matériel au logiciel, avec la mémoire, etc. Sauf que là, en fait, dessous, il y a déjà un OS. Bon, pour les derniers modèles, ça va être FreeRTOS. Bon, c'est l'OS par défaut de la plateforme
Arduino.
ESP32. Pas Arduino. Arduino, je connais pas leur OS.
D'accord.
Mais bon, voilà. Et justement, sur cet OS-là, en fait, j'ai construit juste un gros programme Arduino qui permet justement d'afficher des trucs sur l'écran, etc.
Qui fait le déverrouillage, tout ça.
Voilà. Et en l'occurrence, ce programme, il commence à devenir un petit peu gros. Voilà, il est sur le GitHub. Bon, maintenant, je suis plus tout seul à le faire. Hein. Il y a Raphaël Gutmann, par exemple, qui bosse beaucoup dessus. Et du coup, voilà, cet OS, il a vraiment construit sur les librairies d'Arduino et il permet de pousser, entre guillemets, ce qui est possible de faire plus loin en mettant par exemple la gestion des graphismes. Enfin, au lieu de dire je dessine un rectangle de là à là, ce qu'on peut déjà faire avec Arduino, bah, je dis je veux un bouton ici avec écrit ça dessus. Mm. Et si jamais le bouton est pressé, alors on fait autre chose.
Quelque chose, ok.
Voilà, donc c'est toute une interface.
Qui est faite.
Il y a aussi par exemple la possibilité de charger des images, de rendre n'importe quoi cliquable, aussi envoyer des messages beaucoup plus facilement. En fait, c'est plein de modules comme ça qui permettent vraiment de communiquer de manière beaucoup plus intuitive avec le hardware.
Okay.
Et alors, il peut faire quoi ton système ?
Alors, mon système d'exploitation, enfin mon système plus maintenant, mais le système d'exploitation, entre guillemets, il permet de faire plusieurs choses. Donc déjà, envoyer des messages, passer des appels. D'ailleurs, les messages, maintenant, c'est sous forme de bulles, alors qu'avant, c'était sous forme de mail, voilà, à l'ancienne. Et il y a aussi une application contact où on peut rajouter, éditer des contacts, voilà, voilà. Ensuite, il y a une application calculatrice qui permet de faire des calculs, hein, c'est bête. Il y a une application horloge qui intègre, qui intégrera, parce que c'est pas vraiment terminé, un chronomètre, une horloge et mon minuteur et tout le baratin. Et aussi une application GPS qui permettra de calculer ses coordonnées. Alors la map, on n'est pas encore sûr que c'est possible de le faire. Je rappelle la RAM. mais bon, on va faire de notre mieux. Peut-être un navigateur web pour des pages très simples, du type Wikipédia ou des choses comme ça, ce serait assez noble.
Et navigateur sur un ESP, c'est déjà fou.
Mais sur les derniers modèles, on a 4 mégas de RAM.
Waouh.
Waouh,
c'est... Quand tu compares avec les premiers ordi, c'est pas mal.
Non mais quand je suis passé d'Arduino à l'ESP32, j'ai multiplié par 20 ma RAM, j'étais là, je peux tout faire.
Le monde, les possibilités sont infinies.
Je peux allouer une frame. Je suis content.
J'ai une question très naïve, parce que alors moi, les téléphones, j'y connais rien du tout. Mais quand tu dis que tu peux appeler, est-ce que du coup, il faut une carte SIM ?
Tout à fait. Okay. Dans le circuit, en fait, on peut mettre une carte SIM. Bon, dans les premiers modèles, il faut tout enlever pour mettre la carte SIM. Mais dans les derniers, c'est beaucoup plus joli, vous allez voir.
Okay.
Et donc, ça, la partie discussion avec les antennes, etc., c'est. Enfin, toi, t'as pas vraiment.
Je ne le gère pas, j'utilise un module qui s'en occupe très très bien. Et d'ailleurs, il y a. Je sais plus quelles sont les marques, mais vous en avez parlé.
Qualcomm.
Voilà, Qualcomm, exactement. Ils font des composants électroniques pour faire ce type de truc. Bon, moi, je suis chez Simcom parce que c'est quand même moins cher et plus facile à gérer. Mais bon, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais c'est pas moi qui gère ça, c'est normé, etc.
Ok, ok.
Le chat demande si, attention, question très très importante, est-ce que ça fait tourner Doom ?
Alors, il y a déjà, je suppose qu'il y a déjà des gens qui ont mis Doom sur un ESP32. Donc, a priori, j'ai envie de dire oui, parce que déjà, Doom tourne sur n'importe quoi, pour commencer.
Par définition.
Par définition, voilà. Mais voilà. Non, mais en vrai, on peut vraiment faire. Enfin, pour l'instant, c'est assez minimaliste, mais on pourra faire de plus en plus de choses.
Ah bah,
wow, tellement fast.
Ah voilà, en voilà, même. Tu vois, y a. Là, voilà, on peut jouer à Doom.
On peut jouer à Doom, c'est bon.
Je vais demander aux personnes du projet de rajouter Doom.
Non,
je suis pas sûr que c'est une bonne utilisation du temps, en fait.
Pas sûr. Surtout, à mon avis, tu dois choisir entre téléphoner ou jouer à
ou
Doom.
Ou jouer, mais pas faire les deux.
Et bah, même pas.
Ah ouais ?
Parce que, en fait, on travaille actuellement sur un système de store.
Oh, ah ouais.
Voilà, parce que
la
plus grande difficulté, en fait, au niveau des applications, c'est qu'elles sont codées, bah, du coup, en C++, parce que c'est le langage d'Arduino. Ouais. Et donc, pour installer une application, il faut absolument recompiler la totalité de l'OS. Mmh. C'est logique, en fait. Hein. Ouais. Mais du coup, on ne peut pas installer d'application. Et on peut pas avoir Python non plus. Comment on fait ?
Bah, dis-nous.
Et bah, c'est là que Lua est venue. Alors, Lua, c'est un langage pas très connu, mais bon, que visiblement tu connais, mais qui est beaucoup utilisé, je crois, dans le jeu vidéo, parce que c'est un langage interprété et très rapide. Parce qu'en fait, il y a très très peu de couches et c'est le langage le plus léger qui existe interprété, je crois. Bref, comme avec les 4 mégadrames, on va pas faire grand-chose, on a besoin de quelque chose de quand même très léger. Et donc, on a intégré Lua dans le téléphone. Dans les derniers modèles, hein, pas ceux-là, ceux-là, ils avaient même pas assez de RAM pour allouer une frame, donc un langage interprété, c'est pas possible. Et donc l'objectif avec ce Lua, c'est de pouvoir lire des applications dans la carte SD et de pouvoir les afficher, avoir des événements, des opérations, etc. Qui fonctionnent dessus. Et bah justement, l'application Lua, en l'occurrence, s'est déjà développée. Bon, il manque encore des fonctions à rajouter pour que les développeurs soient entre guillemets plus libres pour... moi, je sais pas, moi, faire des requêtes web, par exemple, bon, bah, ça marche pas encore très, très bien. Ouais. Et l'objectif à long terme avec cet interpréteur Lua, c'est de faire un store sur le site paxo.fr. Et ensuite, on aura juste à brancher le téléphone à l'ordinateur et via le navigateur web, on pourra envoyer des applications à installer.
Trop stylé, tu vas créer le Paxo Store.
Voilà, le Paxo Store, c'est pas encore bon niveau équipe de développement du site web, mais tout mère, c'est pas encore bon au niveau de l'OS, donc on a le temps.
C'est génial, franchement, mais je m'y attendais. Super cool. J'allais dire, cette blague commence à aller beaucoup trop loin.
Mais c'est même pas une blague.
C'est plus du tout une blague. Ouais. Parce que la question maintenant, c'est, nous on a vu pas mal de prototypes, là, la toute dernière version, c'est comment, genre, parce que t'as dit qu'il y a d'autres gens maintenant qui travaillent avec toi sur le projet. Ce qui était ton expérience de garage, entre guillemets, est devenu un vrai truc, quoi.
C'était mon rêve de pouvoir avoir plusieurs gens qui bossent autour de ce projet-là. Donc, du coup, pour continuer un petit peu l'histoire, le téléphone a continué à se miniaturiser. Donc, de ce magnifique modèle, je crois que j'ai réduit la taille par deux à peu près.
Oh. C'est pas mal, déjà. Il était caché, on le voyait pas.
Et voilà, ça, c'est la suite. Donc, voilà, le téléphone a un petit peu réduit.
C'est toi qui l'as imprimé, voilà. En plus, la case.
Et oui, que j'ai eu une imprimante 3D à Noël.
Trop bien.
Que j'avais demandé, voilà, parce que c'était important.
C'est
même pour lui, je crois. Et voilà, donc il est beaucoup plus petit. Et l'électronique fait moins peur aussi. Alors,
c'est
voilà.
Ah mais oui, mais qu'est-ce que c'est propre.
C'est rangé.
Voilà.
Le cable management,
si ça. Exactement, il y a du cable management, là, il y a les petits fils orange là, qui sont nickel. Magnifiquement bien ordonnés.
Et bien comme on aime tout ça.
Et donc lui, c'est aussi le premier qui marche vraiment. Ouais. Parce que comment dire, l'autre, ça marchait, mais dans certaines conditions...
Voilà, on a vu, il fallait pas de faux contacts.
Voilà, le plus grand malheur de Paxo, c'est les faux contacts. Parce qu'en utilisant des fils qui se branchaient, bah, y avait des faux contacts tout le temps. Et un faux contact sur une communication avec un écran, bah, ça plante, tout simplement. Enfin, il n'y a pas trop de questions. Alors que là... Tout est soudé.
C'est clean.
Ah,
c'est
clean. Donc, ça bouge pas.
Ça ne bouge pas. En plus, c'est bien glué salement à la colle chaude. Donc, ça ne bougera pas. La preuve, ça marche encore.
Et donc, ça, c'est un truc qui est fait avec des composants qui peuvent s'acheter sur Internet. Le projet qui est open source. Donc là, théoriquement, moi, de chez moi, si j'ai une imprimante 3D et que j'achète les bons composants, je peux refaire le téléphone.
Exactement. Et normalement, il est chargé. Alors, on va voir si jamais il va démarrer.
Suspense.
J'ai foi. Hein. Ah bah il a démarré déjà.
Trop stylé.
Wow. Franchement, l'interface est très cool.
Voilà, il y a... Bon, on voit pas grand-chose à l'écran, mais franchement, c'est joli.
On rajoutera des plans. Et c'est trop... Mais non, mais surtout, t'as vraiment une
interface. Tu peux rajouter des contacts. Je peux ? Ta batterie, elle dure combien de temps ?
Alors, c'est un modèle avec une batterie très petite, mais je sais plus combien dure l'autonomie.
Mais c'est vrai qu'on voyait que c'était une taille qui...
Dans les contacts.
Alors, il faut taper avec des ongles parce que c'est un écran résistif. Et oui, malheureusement.
Mais alors, comment on revient en
budget
arrière.
Seulement.
Donc, c'est vraiment beaucoup moins cher.
Bah, je croyais. Mais dans le futur, dans la suite de l'histoire, ça change.
On va y arriver, on va y arriver. Okay.
Comment est-ce qu'on revient en arrière ?
Il y a le bouton menu en fait. Ah oui, que il y a une autre expérience utilisateur. En fait, le bouton menu sert à la fois à te mettre en mode veille, aller au menu et aussi aller à la page précédente.
Ok.
Donc en gros, si tu spam clic, tu éteins le téléphone.
C'est de l'innovation de l'interface.
Un bouton.
Okay. Il y a un snake.
Il y a un snake.
Vous m'avez perdu.
Quoi
bah,
il y a un 2048
moi,
aussi.
C'est, bon.
Hein.
C'est mort.
Tu as plus de jeux que dans mon téléphone. Mais c'est dingue.
C'est génial. vous pouvez continuer sans moi.
Il y a aussi le 2048 qui est pas mal addictif aussi.
Ah ouais, attends, il faut que je finisse ma partie de Snake là.
Ah ouais, mais ça va, tu vas jamais finir. Hein. Snake, ça dure longtemps.
Je suis très hypée.
Trop stylé. Attends, tu peux remontrer le menu, pardon, je suis désolé.
Ouais, bien sûr.
On interrompt ta partie.
C'est vraiment trop bien.
Il est très cool.
Il est beau quand même. Oui, mais l'interface est soignée. Mais honnêtement, je vais le dire, c'est plus propre que certaines distributions d'Android. Hein. Non, mais
c'est épuré.
Mais oui, c'est épuré. Et il y a un petit bouton qui ressemble à Maps. Mais qu'est-ce que ça fait?
Ça fait rien. Voilà, parce qu'il n'y a pas de code. Donc, il n'y a rien.
Effectivement, pour l'instant, ça fait rien. Mais si vous voulez, du coup, c'est une genre d'interface comme ça. Genre des applis, quoi. Sauf que pour l'instant, elles sont hardcodées, donc tu peux pas en rajouter.
Et vas-y, va dans contact là avec l'interface, okay. Un petit peu stylé.
Dans contact.
Voilà, je sais pas s'il y a des contacts.
Il y a un contact.
Il y a toi. Contact.
Et il y a moi. Bon, je sais pas si on va montrer mon numéro de téléphone.
Ah non, peut-être pas.
Mais.
Vous pouvez montrer le snake.
Oui, oui. Pardon. Tout le chat réclame le snake, j'imagine. Mais je vais perdre instantanément.
Tu vas perdre. Appuie quelque part.
C'est bon. Attends, en plus je dois jouer à l'envers.
Ouais, ça marche.
T'arrives à jouer. Allez.
Alors, quand on appuie, parfois, il y a un peu tout l'écran qui bouge.
c'est le problème de l'écran résistif.
Ah oui. Parce que du coup, résistif, ça veut dire que ça marche avec deux
couches. Alors, voilà, résistif, c'est... Il y a, en gros, deux couches qui...
Non, dans le temps.
Un petit peu de sérieux, voyons.
Non.
Et c'est deux couches, et il y a deux couches plastiques conductrices, et du coup, quand on appuie, ça fait un contact. Et donc, justement, c'est ce contact qui permet de détecter que le doigt a été appuyé. Et avec la résistance, on peut...
Endroit, c'est ça.
Voilà, avec la résistance, on peut triangulariser la position du doigt. Mais c'est un peu relou parce qu'il faut calibrer. Et c'est un enfer. C'était une erreur de faire ça.
C'est marrant parce que je me suis dit, oui, t'achètes un écran résistif, tu le branches et il marche. Mais non.
Bah, en soi, l'écran, oui, mais le tactile, c'est quand même une galère. Hein. Okay. Surtout qu'en plus, c'est d'autres protocoles de communication hardware que je ne connaissais pas non plus. Donc, ça m'a énervé, le tactile. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que la première version n'a pas de tactile. Hein. C'est... Bah, voilà, c'est ça.
Ça parle comment, l'écran et le
Alors, ça parle en protocole SPI.
SPI.
Voilà, donc c'est un protocole qui utilise quatre broches, une broche de sélection, une broche de transfert dans un sens, une broche de transfert dans l'autre sens, et une broche de clock qui permet de rythmer la communication.
Ah oui. Ok.
Voilà. Et c'est pratique parce que du coup on peut brancher n'importe quoi sur plusieurs périphériques sur les broches envoyer et recevoir. Et avec la broche de sélection, on peut choisir quel périphérique on veut.
Ok.
Donc c'est pratique, même si le I2C est quand même plus rapide pour ceux qui connaissent. Enfin,
ouais.
Plus pratique pour plusieurs périphériques. Mais bref. Okay. En l'occurrence, pour l'écran, c'est comme ça que je l'ai fait. Et c'est comme ça que les écrans, en général, fonctionnent pour ce niveau.
Trop cool. Tu vois quoi, là?
2048.
Ouais, le 2048, il est pas mal.
Et t'atteins combien de FPS, là, par exemple, sur ça?
Alors, la grande nouveauté, c'est que le téléphone est passé d'une clock de 16 MHz avec un cœur, avec les Arduino Mega, à un cœur à 240 MHz avec deux cœurs. Et non pas Docker. Et ça permet d'avoir une fréquence de rafraîchissement beaucoup plus élevée. Alors, en théorie, si jamais le processeur ne faisait que envoyer les données, on pourrait atteindre environ 19 FPS.
19, ok.
Dans les faits, il a besoin de faire le rendu entre-temps. Donc, on n'a pas 19 FPS, on a plus 3-4 FPS.
Ok.
Que ça prend du temps de faire le rendu, surtout que le rendu est aussi fait avec une RAM externe, parce que la RAM de 4 mégas est externe.
Mais ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire que c'est un autre composant.
D'accord, ah oui, donc c'est pas...
Enfin, intégré dans le boîtier de l'USB32, mais c'est un autre composant, parce que le processeur, il a que 300 kilooctets.
Ok, donc t'as un temps de latence juste pour le...
Magnifique, le schéma.
Oh, waouh.
Qu'est-ce que...
On vient de perdre la moitié du chat.
Et ce schéma-là, en plus, il y a des erreurs dedans. C'est ça qui est horrible. C'est que, en fait, j'avais commandé
On les voit pas, t'inquiète.
Non, mais là, par exemple, c'est tout bête, hein, mais il y a une erreur de débutant, entre guillemets. C'est que quand t'appuies sur le bouton menu, ça court-circuite littéralement le plus et le moins.
D'accord.
Ah, ok. Voilà,
je sais même pas si on peut zoomer un petit peu sur, sur la partie bouton. Voilà. Bouton juste au-dessus, là, voilà, bouton.
Oui, voilà. Bah évidemment. Bah, voilà,
c'est... Tu n'avais pas vu ça, Mickaël?
C'est bête, hein, mais je l'avais pas vu passer et j'ai commandé le PCB et ça m'a coûté de l'argent avec un PCB du coup qui est arrivé pas fonctionnel.
Comme dit le chat, 4 FPS pour du statique, en fait, c'est OK. Dans le sens
c'est ça, c'est OK. Par contre, pour slider dans les conversations de messages, un peu moins.
Oui. Mm.
Mais en vrai, comme j'ai baissé la qualité du rendu, c'est presque fluide.
OK. Mm. OK.
Presque.
Donc ça, est-ce que tu leur donnes des versions à tes...
Oui. Alors, en soi...
Ce qu'on vient de voir, c'était...
C'est que des prototypes, sauf la dernière version, qui est la version, entre guillemets, première.
OK.
Du téléphone, parce que c'est la première version.
Version première.
Voilà, c'est la version première, la V1, mais les autres, ça va être prototype 1, prototype 2, prototype 3, prototype 4.
Et alors, la question que moi, j'ai envie de poser, c'est... Et maintenant ?
Alors, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire c'est grâce à celui-là que j'ai été médiatisé.
Oui, parce que, en gros...
Ah, il y en a un autre ?
Jusque pour l'instant... Holy shit!
Oh!
Wow.
Il est trop cool celui-là!
Ouais.
Alors là, on est passé à un niveau de professionnalisme beaucoup plus élevé, avec une beaucoup plus grande qualité de design, et surtout, pour ceux qui s'y connaissent en électronique, l'introduction des PCB.
Wow.
Je sais pas si vous savez ce que c'est.
Il n'y a plus de fil!
Mais c'est ça, voilà, il n'y a plus de fil concrètement. Tout est sur une carte qui est gravée avec les bons circuits, et donc, de 1, il n'y a plus de faux contacts, donc c'est super!
Ok.
Délivrance. Et surtout, ça prend beaucoup moins de place, en fait.
Mais c'est magnifique.
C'est génial.
Voilà, donc vous pouvez voir le vrai PCB.
Non, mais ce qui est trop dingue, c'est de voir la transition, en fait, entre le tout premier truc.
Ah bah c'est sûr que là, il y a une transition. Entre ces deux trucs-là, c'est pas la même chose. Hein. Bon, la batterie est encore un peu petite, mais bon.
Du coup, t'achètes... En fait, t'envoies des plans
Alors... je n'ai pas une usine à PCB chez moi.
Ouais, j'allais dire comment est-ce que tu arrives à faire ça.
Je ne fabrique pas les composants électroniques non plus. Mais, il y a des entreprises, beaucoup d'entreprises, ça se fait de plus en plus aujourd'hui, qui permettent de fabriquer des PCB personnalisés. Donc en gros, tu le designs sur ton logiciel, puis voilà, bah, c'est si EDA, c'est sur quoi je design mon circuit.
Donc tu crées tes plans là.
Voilà, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas moi j'ai toujours utilisé ça et ça marche à peu près. Et voilà, comme on peut voir, il y a LCSC qui est un fournisseur de composants électroniques et GLC PCB qui est justement l'entreprise qui fabrique les PCB.
D'accord.
Qui permettent de justement, voilà, là on peut directement fabriquer son PCB pour pas cher en plus.
Donc t'envoies tes plans, où tu te dis je veux tel composant, je veux qu'il soit monté en série sur de telle manière.
Et l'envoie.
Alors, pour monter les composants, il faut payer quand même un peu plus cher.
Okay.
Et ça devient un peu relou parce que tous les composants ne sont pas forcément en stock chez eux, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je leur demande de faire le PCB vierge.
Ah oui.
Et je commande les composants chez LCSC.
Et tu les soudes toi-même.
Et ensuite, je les soude moi-même. Quelle erreur.
J'allais dire, c'est...
T'as voulu économiser 3 euros.
Mais c'est ça. J'ai économisé 3 euros, mais j'ai perdu 3 heures.
C'est ce que c'est pas la devise.
Le temps, c'est de l'argent, voilà. Je sais pas si on peut voir un peu la taille des composants électroniques, mais bon, pour moi, c'était petit, voilà.
Oui, c'est tout petit.
Moi, j'avais l'habitude de faire des grosses soudures moches et...
T'as dû galérer.
Bah, là, j'ai appris la soudure pour les composants tout petits.
La micro-soudure.
Ouais. La micro-soudure, je sais pas comment on appelle ça, mais peut-être.
Pour faire de la micro-soudure, t'as dû acheter des... Enfin, alors moi, je dis...
Du matos spécial.
Du matos spécial
parce il y a du matos spécial parce qu'on peut pas faire ça avec un gros fer à souder là, qui va bien cramer les composants à 500 degrés. Non, c'est pas ça. C'est, on a le PCB, on met de la pâte dessus. C'est une espèce de... En fait, c'est de l'étain sous forme de pâte.
Okay.
Il y a un autre composant qui fait que l'étain est pas bien soudé. Donc ça fait une espèce de... Ouais, voilà, de liquide visqueux qu'on peut ensuite déposer sur les pads. Les pads, c'est les petites plaques en métal qu'il y a sur le circuit, permettent de mettre les composants. Ensuite, tu mets les composants, puis tu fais chauffer. Et du coup, l'espèce de fluide qui est entre les billes d'étain, elles vont s'évaporer.
Okay.
L'étain va se mettre en petits blocs, et puis l'étain va fondre.
Okay.
Et du coup, ça permet de faire des soudures. Mais
c'est
très
hyper
cool.
Précise, voilà.
Non, moi, je pensais que c'était encore... Alors,
mais moi aussi, je croyais.
Viser,
viser ton truc.
Alors,
à te brûler les doigts, là.
Alors, déjà, il faut viser pour mettre la pâte.
Okay.
C'est déjà pas simple parce qu'il y a quand même la connexion de l'écran. Là, je sais pas si on voit, mais c'est 0,5 mm d'épaisseur entre. Enfin, 0,5 mm de place entre les deux.
Ok.
Voilà, ça c'est de la soudure au fer, ça. C'est facile, ça.
Ouais, bah, je pensais que tu faisais ça, tu vois.
En fait, non, c'est même pas facile. Je crois que c'est plus compliqué pour des petits composants de faire ça au fer.
Ok.
Et ouais, la taille des composants, il faut vraiment une pince pour les placer, quoi.
Ouais, faut.
C'est insupportable. Là, ça voit pas, mais c'est juste les tremblements de la main, quoi. C'est terrible, t'es là et puis.
La chirurgie en fait.
Et puis là, seulement parce que ta main elle est pas parfaite.
Ouais.
Ton composant il a bougé de 2 mm et il a décalé l'autre. Tu vois, c'est.
Et il baisse le mec là.
Il est fort.
Bon, moi je peux pas en dire autant sur mes circuits.
Attends, mais du coup, parce que là on a vu le hardware à l'extérieur. Mais alors, ça donne quoi maintenant? Qu'est-ce qui a comme jeu?
Ce qui est génial. Alors, ce qui est génial, c'est que à partir de ce moment-là, tous mes OS sont rétrocompatibles.
Ok.
Donc, celui-là, l'OS qui est dessus est le même que celui qui est là.
Ok. D'accord.
Sauf qu'il y a un peu plus de trucs, genre, je sais plus qu'est-ce qu'il y a de plus. Non, en fait, c'est le même OS, voilà.
Ok, ok.
Et
alors, juste... qu'est-ce qui a changé?
Alors, ce qui a changé, bah, honnêtement, en termes de composants électroniques, rien. C'est juste qu'au lieu d'acheter des PCB faits par d'autres entreprises...
C'est juste que c'est plus petit.
Bah, c'est ça, en fait, au lieu d'utiliser... En fait, au lieu de prendre des circuits de d'autres personnes, d'autres entreprises, et de les assembler, en fait, bah, je commande direct les composants, je fais ma propre carte, et j'ai tout sur une seule plaque. Au lieu d'avoir plein de plaques que je dois relier entre elles.
Très cool.
Et bah, du coup, ça permet d'avoir un truc beaucoup plus petit, beaucoup plus propre, avec zéro faux contact. Mais là, c'était une autre galère. Parce que c'est bien gentil, mais les modules que j'achetais, ils marchaient. C'est beau, hein. Mais quand c'est toi qui commences à construire les modules, avec zéro année d'expérience en PCB, bah, c'est compliqué. D'ailleurs, le PCB, c'est quelque chose que j'ai retardé pendant très très longtemps. Mon ami, justement, m'a conseillé de le faire, mais je pensais pas pouvoir le faire. En fait, c'est trop, en fait. Là, c'est là où je me suis dit que j'étais peut-être arrivé... au max, enfin, à un endroit où je pourrais plus vraiment avancer. Bah, finalement, sous la pression, entre guillemets,
je me lance,
voilà. Et puis, au bout d'un peu trop de temps, j'ai commencé à commander les premiers PC. Alors là, ça a pris une autre tournure parce que l'électronique, comme ça, c'est à une autre paire de manches. et donc, je peux donner des petites anecdotes comme ça, sympas. Enfin, sympa pour vous. mais bon, par exemple, le premier PCB que j'ai pris, il y avait dessus un port USB-C.
Et après, je mets des lunettes de soleil.
Ah, mais...
Qu'est-ce que
c'est
ça?
C'est un retour dans le passé.
Voilà. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, sur le premier PCB que j'ai commandé, donc un premier PCB pour voir comment c'était un PCB, déjà. Un deuxième pour justement tester le circuit. Et ce deuxième PCB, il y avait un port USB-C dessus. Parce que je voulais faire quand même quelque chose de propre, donc autant faire un téléphone, autant le faire en USB-C. Et l'USB-C, c'est une norme qui est assez relou, pour être poli, qui fait que tu dois mettre des petites résistances sur, sur ton connecteur pour dire que, oui, je suis un circuit qui veut du 5 volts. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, c'est bon, il y a le plus, il y a le moins, je branche tout, et ben, il y avait 0 volts qui sortait. Parce que j'avais pas dit au chargeur combien je voulais.
Donc tu dois communiquer en fait pour expliquer ce que tu vas faire.
Un PCB grillé, et en plus comme j'étais un petit peu naïf, j'avais déjà soudé tous les composants sur le PCB. Donc en gros j'ai perdu 30 euros quoi. Enfin, c'est pour résumer, voilà, c'est tout. Et bon, après j'ai commencé à vouloir faire un truc un peu plus professionnel, et donc là j'ai quand même mis 10 PCB pour arriver à ce truc-là.
Ok,
c'est pas comme ça.
Tu l'as pas fait d'un coup.
Non, j'ai pas fait d'un coup. D'ailleurs ça a été... Il m'a fallu 3 PCB pour seulement démarrer le processeur. Il m'a peut-être fallu 3 autres pour juste allumer l'écran. Et puis pour le téléphonie, pareil. En fait, c'est vraiment par itération. C'est très très long en fait.
J'ai une question hyper con. Tu es, on le rappelle, actuellement en terminale. Qui finance ça?
Alors, jusqu'à ce modèle-là, bah, c'était mes gentils parents, voilà, qui m'ont toujours bien financé mon imprimante 3D, mes fers à souder. Voilà.
Déjà, le père qui donne un Arduino à 10 ans à son enfant, genre...
Ouais, mais il avait un plan, déjà. C'était intentionnel.
Il avait tout prévu. Non, mais en vrai, c'est parce que je m'intéressais à la programmation et à l'électronique, et donc il s'est dit, un Arduino, et bah, c'est pas si bête, en fait. Voilà, c'est...
Ouais, alors je sais pas ce que fait ton père, mais déjà, c'était cool qu'il sache
Il travaille,
Arduino,
il travaille dans le cloud, et donc, il connaissait pas Arduino, mais il savait que c'était une carte connue, et voilà, donc il s'est dit... Parfait.
Très bien.
Il code pas, mais bon, il avait eu l'intuition.
Ouais.
Je le remercie parce que je ne serais pas là. D'ailleurs, je remercie aussi pour le budget qui m'a été offert, même si honnêtement, c'est pas si énorme que ça pour un projet. En fait, c'est même très petit. Mais bon.
T'imagines, depuis le tout début, ça t'a coûté combien en gros toute cette histoire? Arriver à ça là.
Au total, je pense que ça m'a pas coûté. Ça leur a pas coûté plus de 300 euros. Bon, ils me diront que c'est peut-être plus ou peut-être moins.
Non, mais c'est pas beaucoup en effet.
C'est minuscule pour un projet comme ça. Si on compte pas l'imprimante 3D.
J'allais dire.
Oui.
À part la case.
en composant jetable, entre guillemets, enfin voilà.
Mais en composant électronique, je pense qu'on est à moins de 200 euros.
Ok.
Trah, c'est beau.
En vrai ?
Ouais.
Franchement.
Et en plus, la coque, c'est une coque biosourcée. avec du PLA français.
On est chez Naturalia.
De recyclage de coquilles Saint-Jacques pour donner la teinte blanche.
Énorme, en vrai.
Mais oui, mais rien, voilà, c'est comme ça un peu d'écologique en plus, pourquoi pas.
Trop bien.
Non, mais franchement, on peut le tenir.
Bien sûr.
Est-ce qu'il s'allume ?
Il est très léger, j'imagine.
En fait, il était déjà démarré. Alors, je vous laisse l'allumer parce que c'est plus drôle.
Ok.
Alors.
Non, ça, c'est le bouton en haut, c'est le bouton reset pour moi. Donc.
Ah, il y a plus de trucs que sur l'autre.
Ouais, non, les applications avec le logo réglage, c'est les applications justement l'UA.
Ah,
en test.
Ok.
Donc, tu es en train de tester l'App Store en fait.
Le
chargement dynamique d'appli.
C'est ça, exactement. D'ailleurs, on peut peut-être voir.
Mais là, déjà, c'est hyper léger. C'est plus léger qu'un. Voilà, beaucoup de téléphones.
Bah, là, franchement, c'est petit. Hein.
Mais
c'est plus petit. Oui,
mais c'est carrément plus petit que ton téléphone. Ouais. Et vraiment, c'est fin. Enfin, c'est genre. C'est assez satisfaisant.
C'est épuré.
C'est très satisfaisant.
Et ouais, surtout, même en termes de qualité de construction, là, l'écran, il s'enfonce moins. Enfin, globalement, le.
Là, il est très bien emboîté.
Ouais,
en fait.
Tu commences à avoir un niveau de quali qui est assez dingue.
Voilà. Mais là, le seul, malheureusement, truc qui empêche. Enfin, en fait, il y a deux problèmes à ce modèle-là. Qui, du coup, me poussent à ma dernière version. C'est que, de un, l'écran est de basse qualité. Ça veut dire que. Il faut appuyer avec l'ongle, etc. Si tu utilises le clavier, ça devient un peu l'enfer. Il faut un stylet ou un truc comme ça. Mais bon. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'il fonctionne en 2G. Parce que la 2G, c'est moins cher en composants électroniques.
Okay.
Pour donner un ordre d'idée, un module 2G, 6800L, hein, pour être précis, pour ceux qui connaissent, ça coûte environ 9 euros.
Okay.
C'est pas cher. Par contre, le module 4G, c'est 30 euros.
Ah ouais ?
Prix d'entrée.
Wow.
Voilà, donc.
Ça remonte avec notre sujet de la dernière fois sur les licences absolument abusées qu'il y a sur les.
Bah, c'est ça, exactement. Et
ça double le prix de ton téléphone.
Je sais pas si c'est les licences, mais c'est la moitié du prix, en fait, concrètement. C'est énorme. Déjà, c'était un tiers du prix sur les premiers. Là, maintenant, c'est même plus que la moitié, en fait.
Bah, vraiment, tu pourrais aller voir l'interview de JB Kemp qu'on a fait la semaine dernière. On parle de ça. Et
je l'ai vu déjà.
Largement à cause des licences, en fait.
Je l'ai déjà vu, hein, t'inquiète pas.
Et donc ça, c'est la. Je crois que je l'ai freeze. J'ai peut-être cliqué sur une icône de navigateur parce que j'étais curieux de savoir ce qui allait se passer.
Ah oui, non, mais alors, l'application navigateur dont Raphaël Duc justement s'occupe. Hein, je t'attends toujours, hein, Duc qui regarde le live.
C'est
voilà, tu vas devoir bosser encore un petit peu dessus.
Petit coup de pression directement depuis Underscore.
Voilà.
J'ai tout fait planter.
C'est un gros coup de pression là. Non, et c'est la seule application qui plante normalement. Mais bon, je sais pas si on peut faire même une petite démo des applications Lua.
Ouais.
Voilà, il y a trois réglages. J'ai regardé la première parce que c'est celle, entre guillemets, démo avec tous les trucs. Donc voilà.
Montre-le bien.
Okay. Bon, je pense qu'on va rien voir parce que c'est trop loin. Voilà. Ah bah si, on voit très bien en fait. Donc là, en gros, en Lua, j'ai fait même pas 15 lignes de code.
Ok, et donc, là,
il faut vraiment rien.
Ce qu'il y a sur l'écran.
Et donc là, bon, ça va être compliqué de le montrer en vidéo.
Ouais.
Mais.
On fera des plans après.
En fait, tu peux regarder direct, hein, c'est plus simple.
Il y a des boutons, c'est ça?
Voilà, il y a des boutons, il y a des flèches, des plus et des moins, et en fait, bah, tu peux directement checker le système graphique.
Hello.
Hello.
Ah oui, donc c'est en gros, c'est ton interface de.
Voilà, et avec les events, etc.
Ah.
En gros, si tu veux, dans le code, c'est aussi bête que ça, mais je peux faire. En fait, on peut regarder le code presque. Je suis en train de me dire, non, mais parce que il y a des gens tech quand même. Faut voir les choses, quoi. C'est facile.
C'est sur le GitHub.
C'est sur le GitHub. C'est dans dans PaxOS.
Donc là, en fait, sur
ensuite storage,
on a des flèches directionnelles,
puis apps,
en
puis Lua, et là app, voilà. C'est trop bien.
Ok.
La première
émission. Ah oui, mince. Main.
Check du GitHub, on dirait.
Voilà. En live.
Voilà, donc c'est aussi bête que ça, en fait. Bon, là, c'est une autre appli, mais c'est aussi simple que ça, en fait.
Je suis développeur, je veux publier sur ton App Store, je dois écrire ça, en fait.
Voilà, ça, c'est pour une application vraiment basique, mais si tu veux, en gros, le système fonctionne en. Tu as une fonction run que tu fais qui est appelée au démarrage. Tu crées une fenêtre, voilà, avec un nom, etc. Et en fait, à chaque fois que tu refais un objet graphique, tu dois lui donner son parent, donc par exemple la fenêtre.
Ouais.
Et tu peux le modifier, sa taille, etc. Et du coup, tu peux faire toute une hiérarchie.
Il a bougé,
et encore mieux, tu peux faire ton truc, deux points onClick, par exemple, et mettre une fonction entre parenthèses.
Waouh.
Qui appelle n'importe quoi. Par exemple, ajouter 10 à la largeur, ou j'en sais rien. Du coup, ça permet vraiment tout un système d'événements
réactif.
Ultra facile, où le développeur a rien à faire. On est presque dans Scratch, en fait.
Bah là, ce que Tiffany fait, c'est depuis tout à l'heure, c'est de
Tu bouges le carré noir.
On a des petites flèches et ça déplace en temps réel un petit carré comme dans un jeu en fait. Donc tu pourrais faire un jeu en fait avec ça.
Et on a ajouté les Canva dans l'UA.
Ok.
Donc à partir de maintenant, on peut faire des rendus. N'importe, en fait, les applications pourront faire un jeu.
Ok.
Et pour le coup, si jamais leur rendu est rapide, ils peuvent faire avec plus de frames par seconde.
Ça réduit le petit carré.
Et ouais. Mais c'est pour vraiment montrer la possibilité en fait.
C'est génial.
Et le potentiel, voilà.
Je suis fan, je souscris. Voilà. tout ça nous mène à l'apothéose. Au climax. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite?
Alors, déjà, il faut savoir que je suis sorti du budget de mes parents. Parce que, comment dire, là, ça commence à coûter un peu cher au niveau PCB, etc. Mm-hmm. Donc, et même four et matériel, ça coûte cher. Donc, j'ai ouvert une cagnotte.
Oh!
Mais trop bien.
Ah, voilà, il y a la cagnotte, nickel.
Bah, bien sûr. Mais ouais.
Vous pouvez donner, c'est ouvert. Hein.
Trop bien.
Et justement, dessus, bah, j'ai récolté pas mal d'argent. Et ce qui va me permettre de vraiment développer le projet beaucoup plus loin. Enfin, 2000 euros, c'est peu pour un projet, en fait, mais c'est.
C'est ce que tu as besoin.
Vraiment 10 fois le budget que j'avais. Ouais. Donc, j'ai vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin avec ça. Et aussi financer, pourquoi pas, des téléphones pour les gens qui travaillent. Parce que je suis plus tout seul.
Ouais.
Ça qui est aussi intéressant maintenant, c'est que grâce à la médiatisation, ça a attiré plein de gens autour du projet. Et qui maintenant veulent bosser sur que ce soit la partie hardware. Mmh. La partie software, mais aussi tout simplement le site web. Ils font quand même un gros boulot sur le site web. Hein.
Mmh.
Non, je sais pas, le site web est beau quand même.
Ouais, j'avoue.
J'ai rien fait. Hein.
Ouais.
Même le logo est beau. C'est même pas moi qui l'ai fait le logo.
Il manque plus que le bouton buy.
Ouais.
Voilà, mais on n'a pas encore la RGPD, donc il faut encore un petit peu attendre. Et voilà, il y a tout dedans. De toute façon, ça c'est
trop fort.
Tutoriel, mais bon, je ne conseille pas de le produire parce que si jamais la batterie explose, c'est votre faute. Voilà, tout simplement.
C'est très cool.
Trop fort. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme perspective nouvelle? C'est quoi, si tu devais nous vendre la prochaine version?
Alors, Paxophone, déjà la prochaine version, je l'ai presque déjà.
Ok.
Juste qu'elle ne marche pas très bien.
Attends, mais là.
Il y en a un autre.
Oh là là. Il y en a un autre. Alors, lui, il n'a pas de boîtier parce qu'il est pas encore designé. Donc là, on a tout le circuit à nu, entre guillemets.
Ah ouais.
C'est trop fin.
Voilà,
vas-y, montre-le.
Regardez. Et ce qui est vraiment génial, voilà.
Ouais.
Donc là, ce qui est vraiment génial par rapport à l'autre, c'est que c'est un écran en verre.
Ok, ouais.
Là, on voit bien avec les reflets.
Premium.
Et donc là, ça fait premium.
Et là, la carte est directement. Enfin, il manque rien, quoi, en fait, là.
Là, il y a tous les composants dessus, d'accord. Il y a même l'écran, etc., bien câblé, avec une dalle capacitive. Enfin. Ah, mais franchement, ça a marché. Il y a une semaine, j'étais là, je peux jouer au 2048 de manière agréable.
Et ça slide.
Voilà, j'ai fait essayer à mon père et mon frère, et ils ont passé une demi-heure dessus. Bon, mais ça m'a empêché de développer, moi. Mais...
Et donc, l'écran, comment tu dis, capacitif,
voilà.
C'est celui que nous, on a, en fait.
Bah, c'est aujourd'hui la norme, mais ça n'a pas toujours été la norme. Alors, lui, pour le coup, il fonctionne de manière un petit peu plus, on va dire, sans pièces mécaniques. Donc, c'est juste une dalle en verre. Avec un quadrillage de petits fils conducteurs. Et en fait, quand tu appuies avec ton doigt, il y a un petit microcontrôleur qui vérifie si le courant il est parti dans ton doigt. Et comme ça, il peut quadriller l'endroit où tu as appuyé.
Okay.
Et puis, un autre avantage, c'est que ce type d'écran, ça marche aussi avec plusieurs doigts. Genre, sur nos téléphones, aujourd'hui, ils supportent facilement 5 doigts, même si ça sert à rien. Lui, je sais pas. Mais peut-être faire du zoom, etc. Pourquoi pas.
Avec du résistif, tu pouvais pas faire de pinch ou de.
Bah non, avec du résistif. T'appuies à un endroit, t'appuies sur un autre, ça fait la moyenne entre les deux. Hein.
Ouais.
C'est pas cool. Et en plus de ça, on pourrait faire des jeux avec plusieurs boutons. Parce que si jamais t'es en train de, je sais pas moi, de conduire une voiture,
il faut
bien deux doigts.
Ouais.
Un doigt, tu fais un jeu statique.
Mais tout le monde réclame Doom. Hein. Donc là, tout ça est une longue progression.
voilà.
Vers Doom.
Ah oui. Et le dernier truc, c'est l'intégration du modèle 4G. Enfin, d'un module 4G là-dedans.
Oh.
Qui coûte 30 euros.
La moitié du prix.
Et aussi qui a un petit peu grossi. T'as vu? Non, mais je sais pas si t'as vu la taille du module.
Énorme.
C'est énorme.
Genre. Donc, ça, c'est comme ça dans les téléphones normaux?
Mais je sais pas. J'imagine que.
On n'a pas déjà démonté un.
Mais en fait, c'est une autre technologie. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi.
Okay.
C'est là, moi, en soi, c'est encore de l'Arduino. Hein.
Ouais.
Que c'est un module complètement standalone qui.
C'est comme un Arduino, mais que j'ai fait.
Ouais.
Voilà. C'est juste que t'as un écran module 4G, le Wi-Fi, tout et tout.
Juste que ça ressemble littéralement à une PCB industrielle.
Ouais. Alors
franchement, si on avait pris ça, on l'avait téléporté, on l'envoyait à toi de 13 ans qui commence le projet, je pense qu'il aurait pété un câble.
J'aurais été en mode « Waouh, c'est possible, sérieusement !» Je savais même pas que c'était possible de faire un PCB, mais pour moi c'était le truc industriel par excellence, quoi.
Ouais.
c'était pas du tout accessible. Mais bon, pour l'instant, le module 4G ne veut pas répondre aux commandes. La connexion réseau, du coup, ne fonctionne pas. Le tactile fonctionne. Voilà, si vous voulez essayer, à la fin, là, il y a le tactile qui fonctionne. C'est hyper satisfaisant. Moi, je suis. Non, mais je redécouvre l'écran tactile, en fait. Hein. C'est
trop marrant.
Non, mais c'est ça, en fait. Hein. Moi, après tant de temps avec mes boutons, là.
Résistif, ouais.
Voilà, mais pour celui-là, par contre, il va falloir un petit peu attendre avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui achètent ça et qu'ils disent eh, ça marche pas, machin.
Ouais.
Non, c'est relou. Enfin, franchement, faut pousser le projet jusqu'au bout. Et quand il sera vraiment au bout, il y a d'autres perspectives.
Ok. Qui serait comment? Parce que moi, j'ai plein de questions, en fait. Ouais. Je me dis, où est-ce que tu vas? Parce que là, ça commence à monter en complexité, en perfectionnement. Je me demande bien ce que tu comptes faire après, en fait.
Alors, l'objectif, à long terme, c'est de pouvoir vendre sous forme de kit. Que n'importe quel maker puisse vraiment acheter le PCB et le monter avec le boîtier 3D, par exemple, commandé sur Internet. Et puis avoir un téléphone qui marche, quoi. Concrètement, c'est surtout ça l'objectif. C'est n'importe qui peut fabriquer soi-même son téléphone chez soi, mais qui marche. Et puis ce sera un téléphone, du coup, avec les mêmes objectifs, minimaliste, léger, pas cher, le plus écologique possible, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, et avec un tutoriel bien monté, etc., pour en faire vraiment une plateforme de développement. Donc à la fois, ce serait justement une plateforme de développement, mais ce serait aussi un téléphone vraiment utilisable. Ouais. Par exemple, je sais pas, moi, pour les personnes âgées qui s'y connaissent pas forcément d'informatique, ou même pour les parents, qui veulent encourager leurs enfants à avoir un téléphone sans les réseaux sociaux, mais sur lequel tu peux faire plein de trucs.
Ouais, ouais. Tu vois, dans la niche, je pense qu'il faut que tu baisses un tout petit peu ton micro, parce qu'à mon avis, on ne te voit plus. Même pas mal encore. Je pense que dans la niche minimaliste, je ne sais pas si vous connaissez ces téléphones,
mais c'est
des gens qui veulent se déconnecter, ils ne veulent plus de réseaux sociaux, etc. Et du coup, plutôt que de brider leur smartphone intelligent, ils achètent des téléphones bêtes. Qui font vraiment très peu de choses à part téléphoner, alors, lire des mails.
Il y a un magnifique téléphone comme ça que vous connaissez forcément, c'est The Lightphone. Non, vous connaissez
Lightphone
pas
Lightphone si.
The Lightphone. Il est magnifique, si on peut avoir une image, c'est le design parfait pour moi. Mais il coûte 200 euros. Voilà, donc 200 euros, je trouve que c'est un peu trop pour un téléphone qui fait vraiment que appeler et envoyer des messages.
Ouais.
Alors que moi, c'est vraiment 50 euros et tu peux installer des applis faites par d'autres gens, mais bon, voilà. Après, c'est pas exactement les mêmes objectifs, évidemment.
Lights.
Mais surtout, The Lightphone, c'est un écran e-paper.
Ah oui, genre.
C'est magnifique.
Donc c'est un écran de liseuse, en fait.
C'est un écran de liseuse. C'est beau.
C'est l'objectif pour toi.
Alors, moi, j'aurais bien aimé mettre un écran de liseuse. Le problème, c'est qu'un écran de liseuse, c'est très cher.
Ok.
Ah ouais.
Donc, non, laisse tomber. Ça n'arrivera jamais sur le Paxo, malheureusement.
Mais quand on y pense. Tu as conçu un téléphone minimaliste.
Voilà, je suis déjà arrivé loin là.
Dis-toi qu'il y a des gens, on a fait une boucle. Il y a des gens qui payent plus cher pour avoir moins de features. Et donc, ils pourraient totalement installer un Paxophone finalement.
Bah voilà, c'est l'objectif. Après, malheureusement, pour arriver jusque-là, il va falloir déjà terminer le modèle. Ensuite, passer les normes, parce que malheureusement, les normes, ça coûte cher. Cher.
Bah attends, mais tu fais comment? C'est une question hyper intéressante.
Pour les normes.
Comment tu fais pour passer toutes les normes?
Je n'ai pas la moindre idée. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que ça coûtait cher. Okay.
En fait,
je suis allé voir une entreprise qui s'appelle Bilink, voilà, qui fait des PCB en France. Comme ça, je peux leur faire la petite pub aussi, ils seront contents. Justement, j'ai discuté avec leur équipe de recherche et de développement. Et en fait, ça coûte assez cher les normes. Et si tu te fais attraper, si tu ne respectes pas les normes.
Mais est-ce que.
Ça fait mal.
Les normes, ça ne s'applique pas quand tu vends un téléphone complet. Si tu vends un kit de montage.
Bah justement, il y a une petite ambiguïté, mais théoriquement, si tu demandes à la personne de l'emboîter à la fin, c'est un peu sa responsabilité. Mais tu vends quand même un PCB préassemblé, et tout seul, déjà, il fait des trucs. Donc c'est...
C'est compliqué, ouais.
Voilà, après, ce qui est cool, c'est que, par exemple, je sais pas moi, il faut vraiment passer des normes pour tout, pour la quantité d'ondes que ton téléphone émet, si la batterie va pas exploser, ou juste si jamais t'es pas en train de bombarder d'ondes sales tout le réseau... De communication 4G. C'est plutôt cool parce que sinon on n'aurait plus de 4G en fait déjà depuis un moment. Mais bon, c'est relou pour moi et mon budget, voilà, parce que c'est je sais plus, je crois qu'au minimum c'est 5000 euros les normes.
Ah oui.
Donc,
ah oui. Voilà. Okay, d'accord.
Oui donc là on est plus sur
on est plus sur un petit budget.
Après depuis le premier tweet à propos de mon projet par Alexis Kaufmann, donc à l'Éducation nationale, il me propose, on n'a rien dit encore, mais si jamais à un moment je devais passer les normes, peut-être que j'aurais un peu d'aide. Voilà. Ce serait...
Tu vas taper dans l'œil de certains bien placés.
Voilà, mais c'est lui qui a la base, hein.
C'est vrai.
Sinon, je serais encore dans mon bureau à développer mon petit truc, tranquille.
Dans l'histoire, pardon, en fait, on a raté ça, mais ouais. L'histoire, c'est, au tout début, il y a eu un tweet de...
Alors,
ce monsieur,
au tout début, non, c'est il y a 3 mois. Ouais. Mais et oui, il y a eu le tweet sur justement ce modèle-là, le plus petit, là. Voilà. Et celui-là, justement, il est passé dans un tweet. Je ne sais même pas si on peut... Ah bah voilà, parfait. Ils sont trop rapides. Et bon, c'est ce tweet-là qui a vraiment buzzé.
Trop bien. Bah non, mais c'est là où tu vois que le visuel, effectivement, t'es arrivé à quelque chose... Moi, je pense qu'on va essayer de faire un avant-après, parce que c'est comme ça qui est dingue.
Ouais.
Ça a l'air stylé, mais surtout quand tu le remets à côté de la boîte à chaussures, t'as...
Wow. Attendez, est-ce que vous voulez voir, parce que j'ai la photo du premier. Hein.
Ouais,
le premier,
vas-y.
Genre, il fait peur, premier degré.
Moi, pendant ce temps-là, je vais lire le chat, parce que j'étais tellement absorbé que j'ai absolument rien lu, je suis désolé. Est-ce qu'il y a une association / micro-entreprise derrière, car rien que pour passer les normes, il faudra une structure?
Exactement. Alors, justement, on est en train d'ouvrir l'association.
Ok.
Parce donc, qu'on veut vraiment passer au stade d'association. On est une collaboration et tout, donc voilà.
Ok. Le chat est absorbé aussi, oui, effectivement. Ok. Alors, je comprends pas tout. On peut acheter combien de Paxo avec un rond-point?
Quoi?
Tu prends cette blague? Non. Je ne sais pas.
Ah, voilà. Le fameux. Image choquante.
Ouh.
Oui, c'est une valise en fait.
Non mais vraiment. Hein.
Et en termes de taille, si tu...
Alors en termes de taille, si jamais tu prends juste...
Vas-y, montre-la.
Tu vois l'écran là?
Essaie de la montrer.
Est-ce que tu vois l'écran là? Enfin,
ouais.
Là, l'espèce d'écran qu'il y a au-dessus là.
Oui, bon, en gros, c'est une valise à emporter.
Voilà, c'est un écran un peu plus petit, mais à peine plus petit. Que ce qu'il y a déjà là.
Ah, ok.
Donc, il faut vraiment s'imaginer que c'est énorme.
Ouais.
Mais c'était le premier. Voilà. Ah, c'est très drôle.
Alors, on
Il y a même le pont de résistance pour baisser la tension, fait sur une breadboard dans le téléphone. Donc, vraiment.
Question du chat, est-ce que le Paxo est plus solide qu'un 3310?
Non, parce que le 3310, c'est incontestablement le téléphone le plus solide, déjà, pour commencer.
Il demande un drop test en direct, mais je suis pas sûr.
Ah, tu le payes?
Il y a des bonnes refs.
Pour acheter les composants. Ok, je regarde, tant qu'on y est, avant qu'on conclue, s'il y a des petites questions intéressantes. Comment est-ce que tu es devenu médiatique? C'était quoi les premiers passages que tu as fait?
Bah justement, c'est grâce à Alexis Kaufmann que...
Comment il t'a repéré, lui?
C'est la grande question. En vrai, c'est parce que j'avais publié mon projet sur les forums d'Arduino. Bon, ça avait vraiment flop.
Okay.
Puis j'avais publié sur Reddit. Puis ça avait aussi flop. Et puis quelques mois se sont passés. Et là, il y a un tweet à 2 millions de vues. Voilà, tout simplement.
Ok, comme quoi parfois, il suffit de pas grand chose.
Ah, mais il a vraiment pas fallu grand chose. Et puis ensuite, bon, il y a plusieurs médias qui sont venus, mais bon, à la limite, ça, c'est pas forcément le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que ces médias, ils ont attiré la communauté autour.
Ouais,
ça. Et ça va vraiment pouvoir permettre de pousser le projet plus loin, surtout que dans la communauté, il y a pas mal de jeunes. Hein.
Bah, c'est ça qui fait plaisir. On pourrait se dire, mais à quoi bon, finalement, réinventer un truc qui existe déjà? Mais en fait, ce serait passer complètement à côté du but de ce genre de projet. Ou
ouais.
je sais pas si t'arrives à quantifier tout ce que t'as appris. Mais
tu peux le quantifier. On appelle ça le mot tout.
C'est ça. Ben non, mais que... chaque brique, chaque composant, c'est y a pas mieux en fait pour apprendre que de refaire ce qui existe.
Voilà. Et du coup, moi, ce que j'encourage à faire, c'est que je dis que moi, mon parcours, justement, grâce à ce projet-là, bah c'est pas un parcours. Enfin, c'est un parcours de chance quand même. Mais c'est pas un parcours inaccessible. Je suis vraiment parti de pas grand-chose pour arriver jusque-là.
Je rappelle que le premier bug, c'était un voltage qui ne marchait pas.
Mais voilà, non, mais je suis vraiment parti de tellement loin en connaissance que, en fait, a priori, n'importe qui peut faire le même chemin. Il faut juste y mettre le temps, en fait.
Et la déterre,
évidemment, parce que je suis quand même peut-être trop déterre. En fait, je ne sais pas si ça va me poser problème dans la vie, ça, parce que passer 3 ans sur un truc qui ne marche pas... C'est... Faut le vouloir.
Ouais, t'avais vraiment.
En vrai, c'est la bonne détermination, je pense, pour faire des belles choses.
Franchement, je dis à tout le monde, hein, mais faut croire en ses projets, parce que par exemple, j'ai un ami qui écrit un livre. Et c'est super, quoi. Déjà à notre âge de prendre des initiatives comme ça. Bah,
ouais.
Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, que ce soit en électronique et programmation ou en littérature, il faut faire des choses.
Et ben, ce sera la conclusion, le mot de la fin. Merci à toi. Moi, c'était hyper intéressant.
Très cool.
Merci beaucoup. Bien entendu.
Et en tout cas, moi j'ai hâte de voir aussi la version montée. Suite. On va vous rajouter, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, évidemment vous pourrez voir la version complète sur YouTube. Et on va vous rajouter des plans d'insert pour ceux qui n'ont pas bien vu de loin les composants, les interfaces, etc. Et ça sortira dans les prochaines semaines sur YouTube. Et puis d'ici là, nous on se retrouve dans 2 semaines, mercredi à 19h, pour la prochaine émission. Et puis voilà. C'était trop bien, franchement.
Bah, carrément, super cool. Moi, aujourd'hui.
J'ai passé une trop bonne mission. Je suis arrêté à même, mais. Mais les trois sujets étaient vraiment. Enfin, les deux sujets, je vais pas parler de ma propre chronique. Vraiment très. Ah, très
les trois sujets. Ah, non, les deux sujets, pardon, excusez-moi.
Non, les trois sujets étaient très bien.
N'hésitez pas, en tout cas, à follow la chaîne Twitch et merci à vous.
Et puis aussi, rejoindre le Discord.
Mais oui.
Oui.
C'est vrai qu'il y a un Discord. T'es sur le Discord, toi?
Bah, le projet tourne sur Discord.
Ah oui.
Mais rejoignez massivement le Discord. On attend que vous pour contribuer au projet.
Le Paxo, et tout le monde peut y aller. C'est, un...
c'est ouvert, voilà.
Parfait. Et bah, allez-y, faites des dons, suivez, participez. Et puis, trop hâte de. Peut-être on fait un pont dans quelques années. Et
si jamais ça aboutit.
Voir le Paxo 12.
Mais je suis confiant. Non, le Paxo 2.
Paxo 2.
Que, lui, c'est le 2 et c'est le final. Ok.
Ah, c'est le final.
Enfin, c'est le final au sens où quand lui sera clean, l'objectif ce sera pas de l'améliorer matériellement.
Définiment, oui, c'est ça. Ce sera de le faire en kit ou des choses comme
voilà.
Ça.
Voilà. Okay.
Trop cool. Et bah, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Salut, tchuss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.